Le forum de l'UNIS Île-de-France, jeudi 30 mars 2023, sur Radio Immo.
Et bienvenue sur Radio Immo pour le forum de l'UNIS Île-de-France et pour la première fois avec la FNAIM. Nous sommes au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Et nous allons parler du parc locatif privé. Peut-il survivre à la loi climat et résilience? C'était l'objet du débat qui vient de se terminer. Et pour en discuter, je reçois Catherine Albanesi. Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir. Vous êtes coprésidente de la commission gestion locative de la FNAIM Grand Paris.
C'est ça.
À votre gauche, Michel Bancal. Bonjour.
Bonjour.
Adjoint au maire de Versailles, délégué au logement et président de Versailles Habitat et également membre du Conseil national de l'Habitat. À ma gauche, Benjamin Darmouni. Bonjour.
Bonjour, Véronique.
Président délégué de l'UNIS Île-de-France, Shannon Sebon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élue à la mairie de Rosny et à votre gauche, Étienne de Quiré, bonjour.
Bonjour.
Président de Pluriance. On va peut-être revenir sur ce débat. Bon, débat qui a été mouvementé à la fin, hein, et qui a suscité voilà, des réactions. C'est bon, tant mieux.
Évidemment des réactions parce que très clairement ça touche au plus près les professionnels, la rénovation énergétique, le sujet dont nous parlons tous les jours quand nous allons au bureau. Et donc effectivement il y a un engouement et il y a aussi de grandes inquiétudes des professionnels de la transaction qui voient un chiffre d'affaires baisser, qui sont inquiets et donc ils le disent, ils le crient.
Alors, je reviens sur ce que disait le monsieur, hein, le professionnel de l'immobilier qui est intervenu à la fin du débat. Il parlait de son chiffre d'affaires, moins 40%. Donc, lui, il est dans la transaction.
C'est ça.
Est-ce que c'est un chiffre représentatif des professionnels de l'immobilier qui sont dans la transaction?
Actuellement, oui. On rencontre un ralentissement de l'activité de transaction, c'est évident. Il faut dire que les années précédentes ont été extrêmement florissantes. Là, il y a tout un contexte économique qui bloque le marché. Hein, il y a le contexte bancaire et puis il y a le contexte de l'incertitude aussi des gens actuellement qui n'est pas pour favoriser malheureusement la transaction actuellement.
Oui. Alors, ça, à quoi c'est dû selon vous? Alors, il y a la rénovation énergétique, évidemment, on en parle. Le monsieur le disait, il y a les taux qui augmentent, il y a le contexte, l'inflation, on sort du Covid. Il y a plein d'éléments, en fait, qui rentrent en compte.
Ben, en fait, c'est l'addition de tous ces éléments. Et aussi, la rénovation énergétique, il faut bien comprendre que c'est une excuse pour un acquéreur de faire une offre en dessous du prix. Vous avez l'augmentation des taux, on est aujourd'hui entre 3 et 4%. C'est énorme. Et très clairement, tous mis ça bout à bout, eh ben, ça nous amène à une baisse. Alors, Étienne disait pendant la conférence entre 20 et 30% pour les lettres F et G.
Du prix, vous parlez, hein,
hein? Non, du prix de vente, oui. Oui, du prix de vente des appartements. Je ne sais pas si c'est 30%, mais un bon 15% en tout cas, nous à Paris, on le voit. Et même quand on baisse de 15%, on n'est pas certain de vendre. Donc, c'est toujours la même chose. On explique à nos clients, bah, écoutez, on va commencer par une baisse de 5. Là, on n'a rien. Puis, une nouvelle baisse de 5. Et puis, le problème, c'est qu'à un moment, bah, le client, il sait plus où aller et il ne sait plus quoi faire.
Étienne, une baisse de 20%, ça me paraît énorme. C'est vraiment le cas? C'est ce que vous constatez?
Alors, on parle bien de la baisse du prix de vente.
Oui, oui. Hein. Une décote, en fait, de 20%.
C'est encore une fois, j'ai pas d'éléments de preuve, mais ce qui a l'air de se constater de manière plutôt comme ça, quand on s'est fait circulariser auprès des professionnels, oui, deux notes, on parle de F et G. Hein,
Bien sûr, des passoires thermiques.
Entre 15 et 30% pour deux notes de baisse de prix. Et ça...
C'est dans Paris intramuros?
Non, c'est une tendance nationale.
D'accord.
C'est une tendance nationale. Et ça, forcément, quand vous annoncez un candidat vendeur de son logement qui s'attend à un certain prix que ben, finalement son bien vient d'être décoté de 15-20%, ça le fait réfléchir à sa volonté de continuer à vendre. Voilà, c'est la première raison, ou en tout cas l'une des principales raisons du décrochage du marché de la vente.
Alors, est-ce qu'il n'a pas fait peur? Est-ce que ce n'est pas aussi la crise énergétique? Parce que les acheteurs ont peur d'avoir des factures d'énergie énormes et du coup... essayent de négocier aussi par rapport à ça ?
Si, mais quelque part, ils l'intègrent dans le prix. Ils disent, ce logement-là est en G, il va falloir générer des travaux, et je décote ces travaux, c'est une estimation, mais ils décotent leurs travaux du prix de vente. L'autre élément bloquant, c'est qu'il n'y a pas d'acquéreur, ou il y en a beaucoup moins, et les banques sont beaucoup moins enclins à donner du crédit, à des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Donc voilà, vous avez le double phénomène de vendeurs qui hésitent à vendre et d'acquéreurs qui hésitent à acheter ou qui ne peuvent plus acheter.
Alors on va parler dans quelques instants des vendeurs, justement. Juste avant, un petit mot de nos élus, donc Shannon et Michel. Alors Shannon, pour Ronnie, qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous constatez une telle décote pour les biens mis en vente pires biens, les plus mal notés, on va dire.
Non, moi ce que je constate, c'est que, je le rappelais pendant le débat d'ailleurs, à Rosny-sous-Bois, mais en Seine-Saint-Denis de manière plus générale, on a aujourd'hui 66% des habitations qui ont été construites avant les années 1975, soit avant la première loi d'un point de vue qui a été mise en vigueur sur la rénovation thermique des bâtiments. C'est une problématique aujourd'hui qui est majeure, mais je dois avouer qu'en local, c'est pas non plus la priorité principale aujourd'hui des propriétaires bailleurs et même des locataires. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas la priorité. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une sociologie et une partie de la population qui aujourd'hui a pour seul impératif de boucler, comme on dit, les fins de mois. Et effectivement, comme le rappelait Benjamin juste avant, il y a une question de priorisation qui est à l'œuvre et aujourd'hui on revoit ses priorités. Donc, et moi je crois que derrière tout ça, j'ai employé le terme de pédagogie parce que je crois qu'il y a un travail de pédagogie qui doit être fait sur les dispositifs qui existent et qui ont été mis en place par le gouvernement, tels que MaPrimeRénov'. Et derrière tout cela, il faut faire comprendre que écologie, rénovation thermique des bâtiments n'est pas incompatible avec la lutte contre les inégalités et que, in fine, c'est la société dans son ensemble qui est bénéficiaire, on va dire, de ce cercle qui, pour moi, est vertueux. Donc, je crois qu'on peut faire inverser la tendance et qu'il faut arrêter systématiquement de diaboliser tout ce qui a trait à l'écologie, même pour les populations les plus modestes, parce que je veux ici rappeler un chiffre. Aujourd'hui, 80% des personnes qui ont pu bénéficier de MaPrimeRénov', ce sont les foyers les plus modestes. Et ça, c'est important de le dire, et je crois que tous, collectivement, on a un rôle à jouer pour mieux faire passer le message.
Michel, peut-être une petite réaction
Je ne constate pas une vraie baisse pour l'instant, même si ça peut venir du prix de l'immobilier à Versailles, parce qu'on est une ville qui reste très attractive. Moi, ce que je disais en tant que... Je suis aussi donc président d'un bailleur social qui gère 5000 et quelques logements. Et moi, la crainte que je vois venir, c'est que le marché de l'immobilier s'est déjà ralenti, et dans le social et dans le privé. À partir du moment où on va interdire à la location certains logements, plus d'autres qui vont sans être interdits, voir leur loyer gelé, c'est-à-dire que les propriétaires ne finiront par ne plus avoir les moyens de faire des travaux. J'ai peur qu'on arrive un petit peu à... Déjà, on va raréfier l'offre avec une demande qui, a priori, n'est pas en baisse. Donc ça veut dire une masse encore plus importante de gens qui se retourneront vers le parc social parce qu'ils n'ont pas accès au parc privé, puisque l'offre étant raréfiée, ce qui reste, bien entendu, les prix vont augmenter. Et dans un deuxième temps, le fait que vous ayez des immeubles privés sur lesquels les gens n'auront pas les moyens de faire les rénovations parce que les loyers auront baissé, on risque de se retrouver avec ce qui est arrivé avec les lois de 48, où vous aviez des immeubles, dans certains cas, qui étaient dans des états pitoyables parce que les loyers payaient à peine les taxes foncières. Donc les gens ne les entretenaient plus. Et il y en a même à Versailles. Il y a 30 ans, on a récupéré des immeubles qui n'avaient plus de propriétaires. Les héritiers avaient préféré ne pas demander l'héritage compte tenu de... Donc on va raréfier l'offre. Et on va avoir encore plus de demandeurs pour le parc social. Or, on est déjà en situation très tendue. Versailles, la ville de Versailles, on a 22% de logements sociaux et on a à peu près 22 000 demandeurs en Île-de-France qui ont mis Versailles dans les villes qu'ils souhaitent. Alors, pas obligatoirement en première position, mais pour vous dire, et je pense que ce type de loi va pas simplifier les choses. Nous, on devrait arriver, peut-être pas dans les délais, mais pas loin, à rénover notre parc parce qu'on a un parc en bon état globalement. Mais dans le parc locatif privé, ça ne va pas être le cas. Et ça, comme je le dis depuis le début, quand on parlait du choc de l'immobilier qui avait été employé par le président de la République, je disais souvent, j'ai peur que ça soit le choc du Titanic contre un iceberg.
Alors, le ministre du Logement a parlé de bombe sociale, qu'on était en plein dedans. Pour vous, c'est le cas ?
Je pense que ça va être le cas. On va avoir non seulement des gens qui ne pourront... De plus en plus de gens qui ne peuvent pas se loger dans le privé. Mais on va aussi...
Les résultats du rapport de la Fondation Abbé Pierre.
Oui, oui. mais on a aussi, et je l'ai constaté une ou deux fois, et ça va augmenter, on a encore dans le parc privé des propriétaires occupants relativement modestes, des gens pour qui c'est un bien de famille depuis 20, 30, 40 ans. Dans l'entre-deux-guerres, l'immobilier ne valait rien à Versailles. Donc il y a des familles qui sont relativement modestes, qui en sont encore propriétaires de leur logement. Plus on va aller vers les augmentations de rénovation à faire, plus certaines ne vont pas avoir les moyens de le faire. Moi, j'ai déjà eu le cas de gens qui ont été obligés de vendre leur logement et demander un logement social parce qu'ils ne pouvaient pas payer les rénovations imposées dans leur copropriété, tout en reconnaissant que ces rénovations étaient totalement légitimes.
Alors ça, justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que vous avez déjà constaté donc des propriétaires bailleurs qui ont décidé de vendre ? On en parle beaucoup, mais est-ce que vous avez peut-être un peu de data par rapport à ça ? Des propriétaires bailleurs qui ont décidé de vendre plutôt que de faire leurs travaux parce qu'ils ne pouvaient pas les financer ? Ah oui, occupants, oui, j'avais bien compris. Alors,
oui, bien sûr,
joue aussi, évidemment.
Il y a les deux cas. C'est évident que vous avez un certain nombre de bailleurs qui sont découragés. Découragés pourquoi ? Parce qu'ils sont perdus par rapport à ce chantier qui leur paraît titanesque, aux investissements qu'ils savent qu'ils vont être menés à faire. Et c'est là, nous, l'intérêt de nos organisations et nous, des mandataires, justement, de les accompagner, de les aider, de les rassurer, justement pour éviter qu'ils perdent leur patrimoine. Parce que, en fait, c'est renoncer à son patrimoine de vendre. Et c'est là tout le rôle que nous avons, nous, les professionnels de l'immobilier.
Qui est spécialiste donc de la commission, qui est coprésidente de la commission de gestion locative, qui a accompagné ces propriétaires bailleurs. Vous leur conseillez de garder au maximum quand ils...
On le fait à deux titres. Le premier, on a un rôle primordial. On est au centre du logement. On est entre le locataire et le propriétaire. Donc on est vraiment le maillon essentiel dans cette chaîne-là. Ça, c'est le premier point. Et puis après, on a une raison économique aussi. Dans nos entreprises. C'est-à-dire que plus de bailleurs, plus d'entreprises.
Bien sûr.
Donc on a un double rôle.
Et ça, on a l'impression que les politiques l'oublient.
Non, je ne pense pas qu'ils l'oublient. Ils n'ont peut-être pas la connaissance, ils n'ont peut-être pas tous les éléments, ils n'ont peut-être pas toutes les clés. Et c'est notre rôle.
Alors Benjamin, tout à l'heure, vous avez dit pendant le débat que vos clients, pour vous, étaient prêts à faire des efforts pour conserver ce patrimoine. C'est ce que vous ressentez ? C'est ce que vous observez ?
Mais en fait, on se met tous à la place des clients. On aime notre patrimoine, on aime notre studio, on aime notre deux pièces. On n'est pas prêt, sous condition d'une loi, à perdre le patrimoine. L'immobilier en France, c'est très important. C'est ancré dans les successions. Ça a toujours été très important de léguer la pierre.
Les Français sont attachés à la pierre.
Ils sont très attachés à la pierre. C'est ce que n'a pas compris notre président. Parce que Il a une volonté, lui, qu'on se détache de cette pierre.
Mais c'est un banquier. Hein.
Ouais, mais les Français ne sont pas prêts à cela. Donc, par définition, c'est pas à cause de la rénovation énergétique qu'ils vont vendre leurs biens. Pas, en tout cas, pas tous. Et donc, le principe, c'est que, eh bien, ils vont faire les efforts nécessaires. Moi, j'ai beaucoup de bailleurs qui font de gros efforts. Alors, oui, ils vont nous demander de tirer les prix un maximum. Oui, ils vont nous demander trois fois si les travaux sont réellement à faire. Mais au final, ils vont le faire. Encore une fois, le point que j'ai évoqué pendant la conférence, c'est le décalage entre la sortie du bien en location et son retour sur le marché locatif. Et il y a un décalage que moi j'estime entre 4 et 7 mois. Et pendant ce temps, eh bien, on a une problématique qu'on ne peut pas combler sur le marché, et c'est-à-dire qu'on est en pénurie d'appartements à louer pour répondre à la demande, en tout cas en ce qui concerne l'Île-de-France.
Et alors, vont-ils tous revenir sur le marché de la location ? Ça aussi, c'est une question.
C'est la grande question auquel nous, professionnels, nous sommes formés pour répondre à toutes les questions de nos clients. Rappelons qu'il y a 2/3 du marché qui n'est pas intermédié, et je pense que toutes ces lois vont faire que les professionnels vont reprendre la main. En tout cas, je pense que Catherine et moi et Étienne, pardon, nous le souhaitons. Et donc, on va remettre le professionnel au centre du jeu.
c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire que le rôle du professionnel sera encore plus important en cette période compliquée, complexe. Messieurs les élus, mesdames les élus, vous êtes, j'imagine que vous êtes en phase avec ça.
Absolument d'accord, absolument d'accord. Et encore une fois, je crois que pour éviter justement la pénurie de biens en location, il faut faire prendre conscience aux uns et aux autres que engager des travaux de rénovation thermique des bâtiments, c'est pas une contrainte, mais bien un investissement sur le long terme. Et je crois que c'est tout l'enjeu aussi de cette loi climat et résilience qui a été énoncée par le président de la République, c'est de dire qu'il y a un moment, il faut qu'on prenne en compte que si on veut véritablement faire en sorte de rénover notre parc immobilier qui contribue, et je veux le rappeler aujourd'hui à ce micro, à près de 44% des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire, eh bien, il faut pouvoir traiter le mal à la racine, si je puis dire, et ça passe effectivement par une rénovation thermique des bâtiments. Et pour cela, je crois qu'effectivement, s'attaquer, si je puis dire, au bien à la location, c'est un des moyens les plus efficaces. Mais attention à ne pas jouer à un jeu dangereux et à tomber dans le piège de vouloir vendre les biens plutôt que de les garder dans le parc locatif, parce que si on joue à ce jeu-là, qui est un jeu très dangereux, on aura effectivement une pénurie de biens en location.
Alors il y a juste un petit problème par rapport à ça, c'est que les copropriétaires, les propriétaires bailleurs, ont-ils l'argent pour financer ces travaux? Alors il y a des aides.
Il y a des aides, mais...
Pas pour tout le monde, parce que MaPrimeRénov', pour les ménages les plus modestes, vous l'avez dit, pour des ménages, alors pas des très très bons profils, hein, mais pour des ménages voilà, qui s'en sortent, ils n'y ont plus le droit. Hein. C'est quand même assez... Il y a des paliers, c'est quand même...
Je pense que le problème, c'est qu'il y a effectivement un maquis des aides, comme dans d'autres sujets, et que c'est là que les professionnels peuvent être utiles pour aider quand même les propriétaires bailleurs à taper aux bonnes portes, à remplir les bons dossiers, etc. Parce que je pense que tout ça est parti très très vite, avec un maquis juridique, avec des choses qui, en matière d'aide ou autre, étaient vraies il y a 2 ans, ou même il y a 6 mois, sont fausses aujourd'hui. Et tout ça arrive avec des calendriers en plus excessivement serrés. Et comme l'a rappelé quelqu'un, dans un très mauvais timing, puisque on arrive avec des calendriers de rénovation très serrés quand les matériaux manquent, les entreprises manquent, l'inflation est forte et que les gens ont autre chose en tête. Donc
c'est un peu le mauvais timing.
Voilà,
là.
C'est le très mauvais timing. Alors, le président de la République n'est pas responsable du timing, mais je pense qu'il est un peu responsable, par contre, de ce délai qui est beaucoup trop court et qui fait qu'on a quand même l'interdiction de louer les jets les plus énergivores, enfin d'augmenter les loyers, est tombée cet été avec effet immédiat, alors qu'on n'avait pas complètement cadré un certain nombre de choses. Quoi. On précède un certain nombre d'obligations, des moyens mis en place pour les atteindre. Et ça ne tient pas la route sur le long terme.
Sur le plateau, vous demandez tous à ce que ce calendrier mis en place par la loi climat et résilience soit repoussé. Est-ce que vous êtes tous du même avis?
Pour moi, c'est pas mon cas. Je pense qu'il faut se tenir au calendrier parce que procrastiner, c'est jamais la bonne solution et je ne suis pas partisane du report systématique. Je pense que là où il faut effectivement, et là où on a davantage de marge de manœuvre en revanche, c'est sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour mieux accompagner d'un point de vue financier les propriétaires bailleurs et les encourager à faire ces travaux-là. Et je crois qu'il faut qu'on puisse étudier la possibilité, pourquoi pas, de généraliser les prêts à taux zéro et plutôt essayer d'axer sur le financement.
Étienne, votre avis sur le sujet?
Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je me bats plus sur le fait de les pousser à repousser. Il est inatteignable. Ça ne sert à rien de se battre. Ils ne nous entendent pas. J'ai fait Assemblée nationale. Il y a le Sénat. Le gouvernement, ils ne nous entendent pas.
Ils vous écoutent, mais ils ne vous entendent pas.
Voilà. Donc, je suis désolé. Ils sont dans la posture. Je pense que tous les professionnels sont d'accord pour dire qu'il faut avancer sur la rénovation énergétique. Je ne croise jamais personne qui dit « je suis contre ». Il y avait des climato-sceptiques il y a 5-6 ans.
Oui, vu l'été qu'on a passé, je pense que...
Donc on est tous dans le même bateau. Rome ne s'est pas fait en un jour, il y a un problème de timing. Mais pour l'instant, ils ne nous entendent pas. Donc moi, je suis obligé de constater ça. Donc ils vont aller dans le mur. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux rien y faire. Donc je pense qu'en parallèle, les professionnels doivent continuer à leur dire... Mais ils ne nous écoutent pas. Mais peut-être qu'à un moment donné, la parole portera. Et surtout de réfléchir au point de blocage. C'est-à-dire, de manière pragmatique, à travailler le financement. Vous parlez du maquis, des aides. Hein, mais il faut voir le maquis. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont préfinancées avant les travaux, d'autres à la fin des travaux, d'autres avec la possibilité d'un compte. Et moi, j'ai compté à Nantes 24 aides. 24 systèmes. Ils ne se compilent pas tous. Hein. Il y en a, vous avez le droit, si vous n'avez pas le droit, là. Bon. Donc oui, on va dire que les professionnels ont un rôle à jouer, mais enfin, je pense que les politiques également. Vous avez le problème des diagnostics, c'est venu assez souvent.
On critique beaucoup les DPE, à chaque fois.
Il faut les mettre en route, mais je pense quand même que le diagnostic collectif a plus de poids que le diagnostic individuel dans de la rénovation énergétique globale. Ça me paraît tomber sous le sens. Il y a le financement avec des vrais sujets. Les banques sont en train de se bouger. On a un sujet quand même.
Les banques jouent le jeu.
Les banques jouent le jeu. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles dans 3-4 mois avec des vraies possibilités de financement. Mais il y a un problème à nouveau technique qui doit se régler au niveau de Bercy. C'est que les banques ne peuvent prêter que sous contrainte du taux d'usure, parce qu'on considère que le prêt copro est un prêt aux particuliers. Ben, les banques prêtées avec un taux d'usure, elles perdent de l'argent.
Elles oui, ne parce que les banques se refinancent pas. Derrière.
Et les financements, c'est des milliards à financer. Demander à une banque de financer des milliards à perte, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Vous avez enfin toute la problématique du timing. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas le timing, on met une pression. Et la contrepartie, c'est ce que vous avez dit, à vouloir jouer l'écologie, on va finir par avoir une crise du logement. Et d'ailleurs, je pense qu'on est déjà en train d'être dans la crise du logement. Je ne vois pas où sont les fameux millions de logements vacants que le gouvernement dit avoir trouvés. Moi, je ne les vois pas. Et tout ce que je constate, c'est que tous les professionnels, en particulier à Pluriance, je parle surtout, donc tous les groupes, on représente à peu près 50% du marché, nous n'avons plus rien à louer. C'est plein. Plein comme un œuf. Donc, il n'y a pas assez de logements. Je pense que le sujet est là. C'est-à-dire, entre choisir l'un des sujets, l'écologie, réchauffement planétaire ou manque de logements, il y a un chemin médian, intelligent, qui nécessite forcément d'être pragmatique et d'allonger les délais. On est moteur. C'est dommage de nous matraquer comme ça, de nous punir, de dire interdiction de louer. Je ne comprends pas bien la démarche, hormis une démarche de posture. Et j'espère qu'un jour, le gouvernement va nous attendre en disant « mais allons-y ensemble ».
Sincèrement, Étienne a raison. On est moteur. On a déjà fait beaucoup de choses. On a fait des pas de géant. Donc sincèrement, si aujourd'hui, nous lâchons un peu de lest pour désenclaver le marché du locatif, eh bien, ce serait... Mais en plus, c'est même pas pour nous qu'il faut le faire.
Bien sûr.
C'est pour les
Étienne, vous l'avez très bien expliqué, il y a un manque de logement et j'aimerais rajouter, vous n'avez pas mentionné qu'il y a aussi la crise de la construction neuve qui vient s'ajouter à ça. Parce que si on était capable de construire chaque année le nombre de logements qu'il fallait, ce serait forcément moins grave.
Là, les perspectives 2023, on annonce 350 000 logements construits neufs. La profession estime que c'est 500 000 logements, la logique pour qu'on ne creuse pas le déficit. Donc 350.
Alors il y a un chiffre du gouvernement qui est sorti, mais c'est pas...
C'est les derniers chiffres qui viennent de l'INSEE. Hein. Et les perspectives 2024, alors là c'est Xerfi, donc c'est pas l'INSEE. On est à entre 300 et 320 000 logements. Puis alors après, on ne sait pas. Donc il y a forcément une crise de logement liée au neuf, liée à l'ancien, et l'interdiction de louer sur des logements anciens. Mais on est tous d'accord. Il y a un problème de raréfication du logement.
Sans compter, Étienne, que sur ces promotions, un grand nombre de promotions sont à l'arrêt parce qu'avec la crise qu'on vit des prix, eh bien, ils hésitent à finir le projet. Donc ça, c'est un problème qu'on observe à cause de la crise. Et finalement, est-ce qu'on va atteindre ne serait-ce que ces 320 000 ou ces 350 000 ? Ça va être un vrai sujet, hein.
Un sujet dont on parlera sur un prochain plateau. Merci beaucoup, en tout cas, merci à vous cinq d'avoir été présents sur notre plateau. Et merci. À tout de suite pour une prochaine table ronde.
Merci, Bernice.
Le forum de l'UNIS Île-de-France, jeudi 30 mars 2023, sur Radio Immo.